Ce soir, on va regarder trois grands prophètes. Les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. On regardera, Dieu voulant, la semaine prochaine, le prophète Daniel. Mais avant de regarder les passages, on va voir un peu, se rappeler de dates importantes. Vous vous souvenez que après le roi Salomon, qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume de Dieu sur la terre?
Que des méchants.
Et essentiellement, une division du royaume du nord et du royaume du sud. Et à partir de ce moment-là, les nations avoisinantes d'Israël ont commencé à attaquer et à emmener en captivité Israël. Mais ça s'est passé en plusieurs phases. Quelles étaient les deux grandes puissances qui ont ainsi exilé des descendants d'Israël?
Les Assyriens.
La Syrie, et puis les autres, c'était les Babyloniens. Donc, la Syrie, c'était quoi la capitale? Ninive. Et Babylone, c'était Babylone. Alors, ça a d'abord été le royaume du Nord qui est parti en captivité en 721. Ça, c'est une date importante à noter dans votre Bible. 721 avant Jésus-Christ, le roi Sargon a emmené le royaume du Nord en exil en Assyrie. Et là, ils envoyaient leurs captifs, ils les envoyaient dans différents endroits pour qu'ils ne restent pas ensemble. Et de là, lorsque les habitants, à l'époque du Nouveau Testament, il y avait les Samaritains qui étaient d'une race mélangée parce qu'ils avaient été justement, ils étaient des descendants de ces personnes qui avaient été envoyées en Assyrie. De l'autre côté, il y avait le royaume, donc ça c'était le royaume du Nord qui regroupait combien de tribus? 10, le royaume du Nord. La capitale c'était Samarie. Le royaume du sud, c'était qui? Juda et une autre tribu. Il y avait deux tribus, Juda et Ephraïm. Et donc, cette deuxième tribu, deuxième puissance de Juda, le royaume du sud, lui a été emmené, s'il faut se rappeler d'une date, c'est 586 avant Jésus-Christ. Donc quelques années plus tard, après le royaume du Nord, c'est le royaume de Juda, le royaume du Sud, capitale Jérusalem, qui est emmené. En fait, il va falloir 20 ans au roi de Babylone, qui s'appelait comment? Nabucodonosor, on disait en français dans l'ancien temps, Nebuchadnezzar. Ça veut dire que Nébo protège la couronne. Et en 606, ce roi Nebuchadnezzar a soumis le roi Jéhoiakim, qui était un des rois du sud. Il a pris les trésors du temple et des jeunes nobles, dont le futur prophète Daniel. Et puis il a mis à sa place le roi Jéhoiakim. Donc c'était plus Jéhoiakim, c'était Jéhoiakim. Et puis en 597, il est revenu, ce roi Nebuchadnezzar, et il a pris le reste des trésors, le roi Jéhoiakim, et il a emporté 10 000 personnes, dont le futur prophète Ézéchiel. Et il a mis en place un roi, Matania, qu'il a appelé Sédécias. Et en 586, les Babyloniens qui reviennent assiègent Jérusalem pendant un an et demi et finissent par brûler la ville. Et plus tard, les Babyloniens vont revenir et emmener encore d'autres captifs. Ça, il en sera question dans Jérémie 52. La captivité avait été prédite par Ésaïe et le prophète Michée, qui est un des autres prophètes. On appelle les quatre prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel les prophètes majeurs, parce qu'en fait, leurs écrits étaient plus importants que les écrits des prophètes, qu'on appelle les prophètes mineurs, qu'on verra dans une autre session, au nombre de 12. Mais à la même époque que Ésaïe, il y avait aussi le prophète Michée qui prophétisait. Les prophéties, vous pouvez noter Ésaïe 39:6. Voici que les jours viennent où on l'emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, Ésaïe 39:6. Le prophète Michée, dans Michée 4:10, avait dit à fille de Sion, tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Et le prophète Jérémie, dont on parlera après, Ésaïe, avait prédit que la captivité durerait exactement 70 ans. Dans Jérémie 25, 11 et 12. Voilà, donc... Jérémie 25, 11. 70 ans. Et la captivité, oui, finit vraiment en 538 avant Jésus-Christ et ça fera juste 70 ans. Voilà, on va voir des passages, on va regarder un peu ensemble quelques passages dans Ésaïe, dans Jérémie et dans Ézéchiel. Encore une fois, les divisions de la Bible ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Les divisions sont apparues beaucoup plus tard. La première qui a été une division en chapitres, c'est en 1227 de notre ère. Et les versets, c'est Robert Étienne, un Français, en 1551. Le livre de Ésaïe, c'est le livre qui est le plus cité après les psaumes dans le Nouveau Testament. Ésaïe, c'était le prophète messianique. Il a vécu sous les quatre rois, Jotham, Ahaz, ou Achaz, Ézéchias et Manassé. Jérémie, lui, c'était le prophète du jugement divin sur les païens. Il a vécu jusqu'à l'arrivée de Sédécias, ce Matania qui avait été installé par Nabuchodonosor. Jéhoaz, Jéhoiakim, Jéhoiakim et Sédécias. Ézéchiel, lui, il va être le prophète de la restauration à venir. Et lui, il a vécu dans la captivité à Babylone, comme Daniel avant qu'il ne. Oui, comme le prophète Daniel. Une des grandes particularités du livre d'Ésaïe, c'est qu'on a eu. Dieu a permis qu'on retrouve avec les manuscrits de la mer Rouge une copie intacte qui prédatait les copies qu'on avait de 900 ans. Et ce qui était formidable, c'est de réaliser qu'en fait, cette ancienne copie qui était 900 années plus jeune que les textes qu'on avait, et ils n'étaient pas complets, les textes qu'on avait, il y avait plusieurs copies qui se recoupaient, Il n'y avait pratiquement aucune différence avec le texte qui avait été transmis par la méthode des Masorètes. Les Masorètes, c'était des scribes qui recopiaient le texte lorsque les supports en peau ou en papyrus commençaient à vieillir. Ils recopiaient et ils avaient une méthode très très précise, on en a parlé un peu. Ils comptaient le nombre de lettres qu'il y avait sur la page initiale, le nombre de lettres qu'ils avaient recopier. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique associée à elle. Et il faisait ainsi un calcul pour savoir quel était le total des lettres. Ils arrivaient peut-être à 1320. Ils faisaient le même calcul. Et s'ils avaient 1319 ou 1321, ils jetaient, ils déchiraient. C'était vraiment un métier sacré. Et grâce à cette méthode de préservation, on s'est aperçu qu'en fait, pendant 1000 ans, le texte n'avait pas du tout bougé, n'avait pas du tout été abîmé par les copies, ou déformé par les copies. Les messages principaux d'Ésaïe, de son livre, c'est les jugements qui vont tomber sur Israël à cause de son infidélité et de son péché. Et malgré ses péchés et cette infidélité, il va aussi parler de la restauration à venir, comment Dieu va réparer et encourager. Et puis le grand thème, c'est bien sûr le Messie à venir, en la personne de Jésus-Christ, mais pour l'instant, on sait qu'il doit venir par la maison de David. Le style est un très beau style littéraire. C'était un homme éduqué qui était un des grands écrivains de toute l'histoire. Sa prose, d'après ce que disent les spécialistes, c'est vraiment quelque chose de très beau et de très très cultivé. Et un des problèmes que on a avec les textes prophétiques, c'est que souvent il y a une double vision, un peu comme il y a un texte qui va promettre ou qui va annoncer un événement très proche, dans un futur proche, et il y a en même temps une dimension d'un futur beaucoup plus lointain, d'un futur même de la fin des temps. On parle des fois de futur eschatologique, ça veut dire de la fin des temps. Et c'est difficile de ne pas se laisser tromper si on n'a pas une bonne connaissance de toute la parole de Dieu. Et il est notamment question dans Ésaïe d'un Messie, d'un envoyé de Dieu qui va souffrir. Et il est question aussi d'un Messie qui va régner, qui va triompher. Et à l'époque de Christ, les Juifs, les chefs religieux ne voulaient pas entendre parler du Messie qui devait souffrir. Ils voulaient parler du Messie qui allait triompher. Il faut dire qu'à l'époque, souvent aussi, ils pensaient que le serviteur dont il est question dans les textes d'Ésaïe, c'était peut-être Israël elle-même, Israël eux-mêmes. Et ils voulaient gagner, ils ne voulaient pas parler de souffrance. Mais c'est souvent le cas. Il y a quelque chose d'immédiat et quelque chose de plus lointain. Ésaïe commence par quelques prophéties sur Israël, sur la Jérusalem à venir et la Jérusalem présente. Mais le passage où Ésaïe reçoit sa vocation, c'était au chapitre 6, la vision du trône de Dieu. C'est le chapitre 6. On va lire ensemble l'année de la mort du roi Ozias, page.
Tu veux peut-être voir si ça se trouve un peu cette page.
Page 674. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphims se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours mais ne comprenez rien, regardez toujours mais n'en apprenez rien. » Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Un appel majestueux, cette vision du temple et l'appel d'Ésaïe qui se sentait impur mais qui est purifié par cette braise qui lui touche les lèvres. Et il reçoit ce message étonnant de la part du Seigneur de parler, mais de façon à ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est parce que Dieu avait déjà décidé de punir et à la fois de restaurer. Il parle souvent dans l'Ancien Testament d'un reste, d'une souche. Et là, il est question d'une souche qui redonnera une sainte descendance. Ça, c'est un grand thème. Un peu plus loin, il est question de l'incarnation au chapitre 7 et au chapitre 9. Dieu, on peut regarder verset 10, chapitre 7. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Ahaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. » Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois qui t'épouvante sera abandonné. Ce passage bien connu dont on parle souvent quand on célèbre Noël, Dieu va donner un signe à la maison de David. Et c'est vrai que le roi Ahaz n'était pas un bon roi. Mais Dieu avait annoncé qu'il se ferait, le trône de David subsisterait à toujours. Donc, il donne un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Certains disent qu'en fait, le mot en hébreu peut... C'est le mot « Alma » qui peut désigner une jeune fille vierge, mais qui peut désigner aussi une jeune fille en général. Et quelqu'un faisait remarquer très justement qu'en fait, qu'une jeune fille tombe enceinte, ça n'avait rien d'extraordinaire, ce ne serait pas un signe très particulier. Par contre, qu'une jeune fille vierge donne naissance à un enfant, ça, ce serait un signe. Et la traduction grecque de l'Ancien Testament, faite par 70 sages à Alexandrie, ce qu'on appelle la traduction des Septante, elle traduit ce mot Alma par le mot Parthénos, qui en grec signifie uniquement une jeune fille vierge. Donc ce signe va être un signe pour la maison de David. Il y avait, ça c'était une prophétie à moyen terme, c'était pas à la fin des temps, mais c'était la prophétie annonçant la venue du Messie, de Jésus-Christ à Bethléem. Mais c'était aussi une annonce pour le prophète lui-même. Il avait un fils qui s'appelait Shear Yashub, verset 3. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire un reste reviendra. Donc ça parlait en même temps de la prophétie de la souche, du reste qui reviendrait. Et un peu plus loin, on verra le nom d'un autre enfant d'Ésaïe, au verset 8, au chapitre 8, verset 3. Il parle de sa femme. Je m'étais approché de la prophétesse, elle devint enceinte et enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Hashbaz, qui veut dire vite au pillage, en hâte au butin. C'est pas très encourageant, parce que, verset 4, avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Donc là, c'est des prophéties concernant le royaume du nord, de l'Assyrie. La Samarie allait être prise en captivité. Au chapitre 13 et 14, il est question de la ruine de Babylone. Au chapitre 14, il est question de la chute de Lucifer. C'est une prophétie d'abord contre le roi de Babylone. Chapitre 14, verset 4. Tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. Mais à partir du verset 11, il est question de ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Et en fait, on voit qu'il n'est plus question d'un simple roi humain de Babylone, mais il est question de cet homme, cet ange en fait, qui voulait se faire aussi grand que Dieu par manque d'humilité, à cause de sa fierté. On y reviendra un peu plus. Ensuite, il y a donc différentes prophéties contre les différentes nations qui menaçaient ou qui attaquaient Israël. Au chapitre 45, on avait évoqué la prophétie concernant Cyrus. Cyrus, qui allait être le roi qui allait permettre la reconstruction, le retour des Juifs en Israël. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus qu'il saisit par la main droite. Ça, c'est chapitre 45, verset 1, pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées, etc. C'est une prophétie que on a rapportée au roi Cyrus, qui a été bouleversé de voir que, bien qu'il ne soit pas croyant au départ, Dieu l'utilisait, Dieu le prend comme un outil entre ses mains. Ensuite, un passage bien connu, c'est ce qu'on appelle les souffrances du serviteur de l'Éternel. Chapitre 53, qui est un des grands chapitres d'Ésaïe. Il faut regarder à partir du chapitre 52, verset 13. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé, de même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'est plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Et là, verset 1 du chapitre 53, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'était levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui se souciait de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc un passage sublime qui parle de, qui prophétise la souffrance de Jésus à la croix et qui en même temps donne le sens de sa souffrance, de cette mort pour nous guérir. Du fait qu'il a plu à l'Éternel, à Dieu le Père, d'accepter ce sacrifice, et que par ce sacrifice, nos péchés ont été portés. Il s'est chargé de nos fautes. Ça, c'est le grand passage. Un passage que j'aime beaucoup aussi, c'est juste un peu plus loin, le chapitre 55. C'est le grand passage de l'invitation de Dieu envers tous les hommes. C'est aussi un passage dont on connaît souvent des versets sans savoir qu'il se trouve là, peut-être. « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du pain et du lait, du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Et puis un peu plus loin, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, verset 6, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix, les montagnes et les collines éclateront en acclamations devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croira le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Dieu invite tous les hommes, tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont soif, à venir à lui, à venir vers les eaux qui désaltèrent sa présence, vers l'eau vive. Et il promet de faire du bien, de conclure une alliance éternelle avec ces personnes qui viennent à lui. Ça, c'est une grande invitation à venir à Dieu. Au chapitre 63, il est question du retour de Christ, qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements de couleur vive, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? J'étais seul à fouler à la cuvée et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai attaché tous mes habits. Ça, c'est une description prophétique de l'Apocalypse et de la période de la grande tribulation. Il est aussi question au chapitre 65 et 66 du règne de Jésus sur la terre. Après la période de la grande tribulation. Et en fait, il y a plus de descriptions du royaume. On parle du millénium, c'est-à-dire du règne de 1000 ans de Jésus sur la terre dans ces deux chapitres, 65 et 66, que même dans toute l'Apocalypse. Il y a un autre point intéressant, c'est de savoir qu'il y a certains spécialistes au 19e siècle disaient qu'en fait il y avait eu deux auteurs d'Ésaïe, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait deux parties dans Ésaïe. De Ésaïe 1 à 39, il était question de la colère de Dieu contre les nations, du jour de Dieu, contre Juda, contre Israël, contre les nations, contre Jérusalem. Il y a ensuite un passage historique. Au chapitre 39, on voit 38, il est question du roi Ézéchias. Même 36 à 39, il est question du roi Ézéchias. Mais après, à partir du chapitre 40, du chapitre 40 à 66... c'est l'histoire du serviteur souffrant, dont on a parlé au chapitre 53, et la conclusion avec le règne de Dieu sur la terre, le règne de Jésus sur la terre. Et les spécialistes, soi-disant spécialistes, trouvaient qu'il y avait une différence de style, et donc ils parlaient des fois de Ésaïe, de Deutéro-Ésaïe, pour un deuxième Ésaïe, pour cette deuxième portion de 40 à 66. Entre parenthèses, combien est-ce qu'il y a de livres dans la Bible ? Il y en a 66 aussi. Et les 39 premiers chapitres, ça correspond presque à l'Ancien Testament, aux 39 livres de l'Ancien Testament. Et ça, en fait, c'est, j'ai dit tout à l'heure que les chapitres avaient été ajoutés beaucoup plus tard. Et c'est sans doute pour avoir le même nombre de chapitres que de livres que ça a été divisé en 66 chapitres. Mais si on regarde dans Jean 12, on voit qu'en fait, ça ne tient pas du tout la route, cette hypothèse de deux auteurs ou de deux livres différents. Et c'est Jean qui parle à partir du verset 37. « Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ça, c'est la référence à Ésaïe 53, 1. Et puis, au chapitre 40, au verset 40, pardon, par contre, il est dit « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent pas du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ça, c'est une référence au chapitre 6, versets 9 et 10 d'Ésaïe. Et la bonne nouvelle, c'est que au chapitre 39, Jean nous dit que aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Donc il est clair dans la parole inspirée de l'apôtre Jean que c'était le même Ésaïe qui, quand il cite un passage qui était dans la première partie, dans Ésaïe 53, il dit que c'est le même Ésaïe qui avait dit au chapitre 6 une autre chose. Donc l'idée qu'il y avait deux auteurs différents, c'est pas du tout quelque chose qui tient la route. Dans le chapitre 53, je voulais mentionner, on voit combien Jésus a pris notre souffrance, comment il s'est substitué à nous dans la punition qu'il a reçue, nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs dont il s'est chargé, nos crimes, nos fautes, mais il nous donne la paix, nous sommes guéris, nous étions tous comme des brebis, mais lui nous a apporté la paix. Et donc ça c'est fondamental, c'est le principe même du sacrifice à notre place en la personne de Jésus. On va passer à Jérémie. Jérémie, si Ésaïe c'était le prophète messianique, Jérémie c'est le prophète éploré, c'est le prophète des pleurs, le prophète en larmes. Au chapitre 1 de Jérémie, il reçoit son ordre de mission de Dieu. Verset 4 du chapitre 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Dieu lui parle et Dieu lui dit qu'il a décidé qu'il serait prophète. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Verset 6, « Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un jeune garçon. » Mais l'Éternel me dit, « Ne dis pas je suis un jeune garçon car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas. » Car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Comme souvent, lorsque Dieu parle aux hommes, on a tendance à dire, non, c'est pas moi Dieu, tu t'es trompé. c'est pas moi qui dois faire ça, je suis pas doué. Et là, Dieu le reprend en disant, ne dis pas que tu peux pas, c'est moi qui serai ta force. Et en fait, chaque fois qu'il appelle quelqu'un à son service, quelque part, c'est une bonne chose d'avoir ce réflexe d'insuffisance, de dire je suis pas capable. Mais ça doit pas être une excuse pour ne pas obéir à ce que Dieu nous demande. Ensuite, après cette commission, il y a des prophéties avant la chute de Jérusalem, du chapitre 2 au chapitre 20. Des prophéties sur Juda et Jérusalem. Ces prophéties sont générales, il n'y a pas de détails trop particuliers, ni de date. Par contre, à partir du verset 21, il va y avoir des prophéties très détaillées, très spécifiques, et même des dates avec des références à des rois. Ensuite, les chapitres 40 à 44, ça va être des prophéties après la chute de Jérusalem. Et puis le reste, 45 à 59, ça va être des prophéties sur les nations païennes, l'Égypte, la Philistine, les Moab, Ammon, Édom, Damas, puis une malédiction contre Babylone aussi. Jérémie pleurait beaucoup parce que c'était un vrai patriote. Il aimait beaucoup sa patrie, son pays, Juda. Et en même temps, Dieu lui donnait d'annoncer des choses terribles. Et il ne pouvait pas rester insensible. Il a servi pendant une période de 40 ans, à peu près 80 années après Ésaïe. Et toutes les prophéties qu'il a faites, qu'il a annoncées à son peuple, l'ont rendu extrêmement impopulaire parce qu'il donnait des prophéties de malheur que les gens ne voulaient pas entendre. Et pendant ces 40 ans de ministère, jamais quelqu'un l'a encouragé, lui a dit merci pour ton honnêteté, merci de nous prévenir. Il a été persécuté. Et ça a été... Il y a un livre qui continue, qui s'appelle « Les Lamentations » de Jérémie, où il continue de pleurer et de laisser s'épancher son cœur devant la... sa souffrance. Verset 1 du chapitre 9, page 749. On va lire en fait chapitre 8, verset 18. « Je voudrais surmonter mon tourment. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici que les cris plaintifs de la fille de mon peuple viennent d'une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité ?» Ça c'est Dieu qui parle. « M'ont-ils irrité par le statut, par des vanités étrangères ?» Mais le prophète pleure sur la situation de son peuple, les cris plaintifs de la fille de mon peuple. Et il y a quelqu'un d'autre un autre prophète a pleuré sur Jérusalem. Est-ce que vous pouvez penser à un autre prophète qui a pleuré sur Jérusalem? En fait, c'est une question un petit piège parce que, voilà, Jésus était prophète, roi et... Quoi? Et prêtre. Chapitre 23 de Matthieu, 24 de Matthieu, 23 pardon, 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc la même compassion de Jésus pour Jérusalem, pour le peuple juif. Dieu voulait les rassembler comme des enfants sous ses ailes. Ça, c'était le but de l'histoire, mais la tragédie, c'est que vous ne l'avez pas voulu. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va revenir, ça va arriver quand même. C'est la réconfort jusqu'au jour où ils proclameront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans ce livre du prophète Jérémie, on voit que Dieu juge la vie nationale d'un peuple. Pas seulement des individus, mais au niveau d'une nation entière. Ça fait penser au passage qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il revient à lui, alors je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » On a l'impression que le monde entier actuellement, avec cette crise financière, économique qui n'en finit pas de se démultiplier, de s'affirmer de pire en pire, quelque part c'est un jugement peut-être de Dieu sur un monde qu'il a complètement rejeté. Mais c'est à nous, l'Église, à son peuple, l'Église et Israël, à l'Église, des croyants, de se repentir et de revenir dans ses voies. Une autre chose, c'est que Dieu n'a pas abandonné son temple, son trône. Jérusalem va être punie, mais elle va être restaurée. Et il prédit exactement 70 ans de captivité. Dans Jérémie 31, c'est un très beau passage aussi. Il est question de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est aussi le Nouveau Testament. Le mot traduit par alliance, ça peut être traduit par testament. On va regarder ensemble. Page 777, chapitre 31, verset 31. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma foi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça, c'est ce que Jésus a accompli lorsqu'on rappelle le sacrifice de la Sainte Cène et le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Vous vous souvenez, on dit que le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang où la loi ne sera plus seulement sur des tables de pierre, mais sera écrite sur leur cœur. Et cette merveilleuse promesse, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Au chapitre 50 et 51, il y a encore une malédiction de Babylone. On voit la chute et la délivrance de Babylone. C'est intéressant qu'en fait, on va y revenir. Jérémie 22, 30, on en avait parlé le dimanche, je crois, il y a quelque temps. C'est surprenant. Il y a une malédiction de Dieu contre un membre de la lignée de David, contre un des rois, qui était le roi Jéhoiakim, qui qui était aussi appelé ici, dans Jérémie 22, 28, Cognaou. Et il est dit, est-il donc une image méprisable et brisée, ce Cognaou ? Est-il un objet qu'on n'apprécie pas ? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa descendance, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, car de sa descendance, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. Et là, c'est très bizarre, parce qu'on a l'impression que Dieu vient de mettre à mal sa promesse de faire régner pour toujours quelqu'un sur le trône de David, dans le sens où il promet, il maudit quelqu'un qui se trouve dans la descendance de David, et il dit, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône, de sa descendance, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Et en fait, quand on regarde les généalogies de Jésus, dans Matthieu et dans Luc, on voit qu'il y en a une où il descend de David par Yéconia, c'est au chapitre 1 de Matthieu, verset 12. C'est Cognaou, Yéconia ou Yéoyakin, c'est le même personnage, pensent les spécialistes de l'Ancien Testament. Et on se dit qu'en fait, quelqu'un qui vient de sa descendance ne peut pas régner sur le trône. Et on voit que Jésus arrive par cette descendance, mais il dit dans la malédiction de compter cet homme comme privé d'enfant. Et en fait, il y a des passages dans l'Ancien Testament, les filles de Un homme qui était mort sans descendant, et les anciens des tribus de Juda avaient décidé que ce serait bien de faire passer la descendance par de Tselophad, pour qu'il ne reste pas sans que le territoire ne revienne pas à d'autres peuplades. Et par cette façon de dire qu'une descendance pouvait passer par la femme, dans Luc, la descendance, elle arrive par Jésus descend de David par Marie. Et ainsi, Jésus peut être sur le trône de David pour toujours. Mais c'est quelque chose qui explique qu'il y ait deux généalogies différentes dans les évangiles entre Matthieu et Luc. L'une, c'est par le Père, et l'autre, c'est par la Mère. Sachant que la vraie descendance était par la mère et le Saint-Esprit, puisque l'autre c'était simplement une descendance adoptive par Joseph, qui était lui-même descendant de David. On referme la parenthèse, on va parler un peu de Babylone qui doit être détruite. C'est la prophétie, on avait vu la prophétie dans Ésaïe 13 et 14. Pour regarder juste. C'est là qu'on avait vu la prophétie contre le roi de Babylone, justement. Dans Jérémie, c'est au chapitre 50 et 51 qu'il est question de cette malédiction. La ville devait être détruite et ne jamais être réhabitée. Ses matériaux ne devaient être jamais réutilisés. Elle devait finir comme Sodome et Gomorre. Elle est tombée en fait en 539 avant Jésus-Christ, sans bataille. C'est devenu la capitale d'Alexandre. Mais c'est une ville qui a dépéri au cours des siècles. Et seulement récemment, elle a été reconstruite partiellement. Saddam Hussein voulait en faire la capitale de l'Irak. Et il en est question dans l'Apocalypse, au chapitre 17 et 18. Question de la chute de Babylone, qui semble être l'incarnation du monde commercial moderne. Donc Donc on voit une continuité dans les thèmes bibliques. On va parler rapidement d'Ézéchiel. Comme Jérémie, c'était un prêtre et un prophète. On a vu qu'il était un des 10 000 captifs qui ont été pris par Nebuchadnezzar 11 ans avant la chute de Jérusalem. Dans son recueil de prophéties, il y a d'abord des jugements présents. Il était connu pour être pour utiliser des méthodes visuelles, pédagogiques, un peu comme des aides visuelles. Aujourd'hui, on a des moyens de vidéo, on a des moyens de pour saisir l'attention des gens. Dieu utilisait Ézéchiel personnellement pour parler à son peuple. Ainsi, il se retrouve enfermé dans sa maison. À un moment donné, il s'attache lui-même. À un autre moment, il est muet. Pendant 430 jours, il doit être couché sur un côté, puis couché sur un autre. Il mange du pain qui est cuit avec des excréments d'animaux. À un moment, il se rase complètement les cheveux et la tête, ce qui n'était pas approprié pour un prophète. Les prophètes étaient un peu comme Noah, avec la barbe et les grands cheveux. Donc des jugements présents pour son peuple, Il y a tout un tas de situations. Pendant 390 jours, oui, il se couche d'un côté, Dieu lui demande d'utiliser une poêle en fer, mais et ça, je vous laisse regarder un peu les chapitres du début, 3, 4, 5. Entre parenthèses, si vous connaissez mal ces prophètes ou ces prophéties, une façon de mieux les connaître, c'est de les lire un peu. Peut-être que je ne sais pas si vous avez un programme pour lire la Bible tous les jours, mais peut-être lisez un chapitre ou deux tous les jours dans ces prophètes. Ça se lit des fois comme des romans parce que c'est très visuel et c'est en même temps très instructif pour voir la vue d'ensemble de Dieu. Au chapitre 28, il parle du futur des nations. Et on va y revenir. On a vu qu'il y avait au chapitre 14 d'Ésaïe une description du roi de quoi ? Vous vous souvenez ? Ésaïe 14, c'était le roi de simplement Lucifer, hein, le roi de Babylone. C'était une prophétie contre le roi de Babylone qui devient une prophétie sur Satan ou Lucifer. Et là, 14, vous multipliez par 2, vous arrivez à Ézéchiel 28. Je me souviens comme ça du passage. Il est question du roi de Tyr. Et à partir du verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Donc on peut penser qu'il parle du roi de cette ville en bordure de la Méditerranée, la ville de Tyr. Mais tout de suite, on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'un homme. Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et on sait qu'en Éden, à part Dieu, il y avait Adam et Ève et le serpent. Donc il est visiblement question du diable. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Donc tout de suite, il est question de d'abord du roi de Tyr et ensuite de quelqu'un qui habitait cette spirituellement cet homme qui en fait est Satan. Et là aussi, il est question d'une destruction de Satan. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, on voit comment Satan essaye d'attaquer, de se défendre et de gagner la victoire dans le combat qu'il oppose à Jésus. Matthieu 25 nous dit qu'en fait l'enfer a été préparé, Matthieu 25, verset 41. L'enfer, le feu éternel, a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais pour Satan et pour ses anges. Et si les hommes continuent à les suivre, alors ils vont terminer là aussi. Un des grands passages dans Ézéchiel, c'est le chapitre 36 et 37, qui fait état de la vallée. Une vision des ossements et du rétablissement d'Israël. On peut lire chapitre 36, verset 25. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Nous rappelle ce que disait l'autre prophétie que Dieu allait, de Jérémie, que Dieu 31-31 allait mettre sa loi dans nos cœurs. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. On avait vu ça aussi dans l'autre prophétie. Et il y a cette vision d'ossements desséchés. Verset chapitre 37, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Et là, on n'a pas le temps de lire, mais ces ossements, petit à petit, se couvrent de chair et redeviennent des hommes et des femmes. Et verset 11, il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes et je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Ça, en fait, c'est une prophétie qu'on a vue se réaliser il y a 62 ans, en 1947, lorsque Israël, les Israélites sont revenus dans le foyer qui leur était réservé et que David Ben-Gurion a proclamé l'État d'Israël en mai 1947. Ça, c'est la partie physique. Ils sont redevenus une nation. C'est un fait inouï dans l'histoire de l'humanité. Jamais un peuple qui a été dispersé comme ils l'ont été pendant des siècles ne s'est restauré, ne s'est retrouvé dans leur territoire d'origine. Ça, c'est la partie physique. Et on peut attendre que la réalisation de l'Esprit de Dieu en vous, même si on sait qu'aujourd'hui il y a pas mal de juifs messianiques, mais ça fait partie de cette description qu'il y aura une souche qui reviendra à Dieu et qui viendra adorer le vrai Dieu. Dans Ésaïe 11:11, il y avait une prophétie qui disait un rameau sortira du tronc d'Isaïe, donc le père de David, et le rejeton de ses racines fructifiera, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, etc. Cette prophétie, c'était la prophétie d'Ésaïe, du Messie, qui amènerait l'Esprit sur son peuple, cet Esprit qui n'est pas encore revenu complètement sur le peuple d'Israël. Il est question dans les derniers chapitres d'une vision du temple restauré par Ézéchiel. Le temple, en fait, c'est le temple dans la période de 1000 ans, le temple du millénium. Il est intéressant de réaliser qu'en fait, il y a beaucoup de détails. Toutes les nations viennent offrir des offrandes. Il est question aussi, juste deux choses que je voulais mentionner. Ésaïe, il y a une vision du trône dans Ésaïe chapitre 1 et chapitre 10, une très belle description. Il voit la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est à lire. Donc ça rappelle la vision d'Ésaïe au chapitre 6 et la vision de Jean dans l'Apocalypse au chapitre 4. Une dernière chose pour terminer, c'est l'histoire de Gog et Magog. Dans Ézéchiel 38 et 39, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi: parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Et il décrit la façon dont il va gagner la bataille contre ce Gog au pays de Magog. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'était pas sûr de ce qui se passait. Mais l'historien grec Hérodote parle de Gog et de Magog comme des peuples qui s'appelaient les Scythes, en anglais les Scythians, qui sont en fait les habitants de la Sibérie, de la Russie d'aujourd'hui. Et les villes dont il est question, le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, certains spécialistes pensent qu'il s'agit peut-être de la Russie, de Moscou, de Tobolsk, des régions au nord d'Israël qui vont se battre contre Israël. Mais il est possible que la description de la bataille dont il est question soit une référence à un combat nucléaire. Quand on regarde les passages en détail, on voit que pour nettoyer les morts, il y a c'est des professionnels qui enlèvent les corps des morts. Ils sont mis de côté à l'est, un peu pour que s'il y a du vent venant de l'ouest, ça c'est des spéculations, mais il est possible que ce soit des prophéties de bataille de contre Gog et Magog. Qui aurait lieu avant ou pendant la période de la Grande Tribulation. Et donc, le mieux, c'est encore de lire ces passages et d'essayer de vous faire une idée par vous-même. Mais ça, c'est... On va s'arrêter là, parce qu'il se fait tard. Voilà, en gros, ces trois grands prophètes, grands, non seulement par l'importance de leur prophétie, mais aussi par l'épaisseur de leur livre. On verra le prophète Daniel, qui lui aussi a des prophéties très, très précises qui parlent sur l'histoire de l'humanité. Puis après, on verra les 12 petits prophètes, prophètes mineurs, pas par leur importance, mais par la taille de leur livre. Est-ce que vous avez des questions? Ça va vite, mais je crois que pour les évangéliques qui connaissaient un peu la parole, de voir l'état d'Israël se reconstituer, ça a dû être quelque chose d'absolument émouvant et un peu inquiétant. Beaucoup des choses qu'on voit dans les derniers temps, dans l'Apocalypse et dans ces prophéties, on peut se demander si ce n'est pas des événements qui sont en train de se dérouler en ce moment. Et ces prophéties ne sont pas là pour nous inquiéter. Au contraire, on sait que Dieu va protéger son peuple, mais pour permettre de mieux comprendre le calendrier d'histoire et voir où on en est.